Venez vous confier à Sabine Marin sur Europe 1.
Alors nous n'avons malheureusement pas réussi à rétablir une communication correcte avec Charlie, mais sachez que nous lui laissons un message pour le diriger vers des psys compétents et notamment vers des centres spécialisés dans les diagnostics d'autisme et de haut potentiel pour essayer de l'aider à avancer. C'est Lucas que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir Lucas.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Merci. Donc je me permets de vous appeler pour avoir votre regard et peut-être l'avis des gens qui écoutent l'émission sur des troubles que mon petit garçon subit depuis 5 ans.
Oui, quel âge a-t-il ?
Il va avoir 10 ans.
Mmh.
Donc il a commencé à une réunion de famille en plein restaurant, après le repas, à se retrouver inondé d'urine. Au moment où je suis séparé de sa maman, et au moment où je lui ai dit il va falloir qu'on se prépare pour aller retrouver maman, il s'est inondé et ça m'a inquiété. Et puis ça a continué de jour, de nuit. Puis après, il a fait de l'encoprésie. Puis après, il s'est mis à bégayer. Puis après, il a eu des comportements liés à la sexualité qui m'ont vraiment inquiété. C'est-à-dire qu'il avait un tableau dans sa chambre. Il faisait ses premières représentations d'être humain avec deux jambes, enfin les bâtons, le rond pour la tête et puis les bras. Et puis il faisait un long zizi comme une troisième jambe. Ça m'a un peu inquiété, mais j'ai lu et je me suis dit... Ouais, apparemment ça peut être normal. Et puis après là il a simulé des actes sexuels, il a fait des dessins avec des zizi dans la bouche et tout ça. Donc j'ai commencé à essayer d'en parler à la maman qui me disait que s'il y avait tous ces problèmes là, fallait que je me remette en question, c'était qu'il se passait quelque chose chez moi qui n'allait pas. Donc ça m'inquiétait qu'elle n'entende pas ma détresse et mon inquiétude, et j'en ai parlé autour de moi et on m'a dit il faut que tu fasses quelque chose, il faut faire un signalement, et j'ai fait le 119.
Oui.
Et depuis, je vis un enfer.
C'est-à-dire ? Juste pour une question que je me pose, est-ce que votre ex-femme a quelqu'un dans sa vie, un homme ?
Non.
Vous êtes sûr de ça ?
Oui.
Bon.
Donc, j'ai fait le 119. Je savais, j'ai pas pris la précaution de voir et de regarder comment ça pouvait se passer et ce que ça pouvait supposer. Donc, la CRIP s'est mise en route. J'ai été convoqué aux services départementaux. On m'a demandé si c'était bien le signalement que j'avais fait. Et quand j'ai eu la personne du 119, j'ai fait le récit de toutes mes inquiétudes. Et on m'a dit, avez-vous une idée ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous venir en tête, un trouble ? J'ai dit, il y a quelque chose qui me paraît quand même, qui m'inquiète, c'est qu'il avait 5 ans, voire 5 ans et demi, 6 ans, il dormait avec sa maman depuis qu'il était tout petit. Et j'ai dit à la personne du 119 que je trouvais ça bizarre et peut-être qu'il y avait une marque d'affection de la maman qui pourrait faire penser à quelque chose d'incestueux et que ça m'embêtait, que ça m'inquiétait. Et j'ai dit, mais puis j'ose pas trop vous appeler parce que je sais qu'elle est fragile et puis qu'elle pourrait passer un acte... Alors... Du coup, dans le compte-rendu, c'est écrit que je la dénonçais comme quelqu'un d'incestueuse et de suicidaire.
Oh là là, oui.
Et donc après, c'est parti. Et puis là, je me suis retrouvé dans une gendarmerie. Je me suis retrouvé... je viens à l'enfer. Et sauf que mon petit garçon, il est toujours avec ses problèmes. Et là, avec tout ce qu'on entend dans les médias, j'arrive pas... Alors, je me fais passer pour un papa anxiogène. On dit que tous ces troubles, ils sont liés à mon anxiété. Et donc il est suivi par le juge pour enfants. Ça fait deux fois qu'on passe devant le juge, il y a une AEMO. Et je suis un peu déçu parce que ça tourne en rond. On a eu des expertises. Et donc ma question c'est, est-ce qu'un enfant de 5 ans, 6 ans, peut simuler des scènes sexuelles, peut faire des dessins, et que ce soit dans un développement normal de l'enfant de cet âge-là ? Et parce que moi, j'en parlais autour de moi avec des amis, des collègues. Elles me disaient, puis j'essayais que ce soit des mamans, elles me disaient, non, faut que tu fasses quelque chose, là, c'est pas possible. Mais maintenant, je sais plus. Et là, quand j'entends dans les médias, je me dis, j'ai des doutes, et ça revient tout le temps, je me dis, c'est pas possible. Et ça continue, il a encore l'encoprésie et l'énurésie et des périodes de bégaiement. Par contre, il est très brillant. Et je me suis rendu compte, alors j'écoutais tout à l'heure Charlie, je me suis rendu compte que je pense qu'il est zèbre ou au potentiel ou hypersensible et que probablement que moi aussi. Alors, je ne sais pas si tout ça c'est lié. Je ne sais pas, mais en tout cas, sur l'aspect sexualisé d'une période. Alors, ce qui est curieux, c'est que du jour où on a été entendu par la gendarmerie, chacun de notre côté, ça a été terminé. Du jour où sa maman, j'ai su qu'elle avait été entendue par les gendarmes par rapport à tout ça, il n'y a plus jamais eu de troubles liés à la sexualité.
En tout cas, visiblement.
Et donc, oui, visible. Enfin, en tout cas, moi, je ne le vois plus. Mmh. Et alors, ce qu'on me dit, c'est que souvent, il y a des papas qui font ça. C'est par rapport à des conflits de loyauté. Donc, ils essaient de trouver des gros dénonciations comme ça pour essayer de récupérer un peu plus de garde. Moi, je ne savais pas ça du tout. Donc, j'ai été catalogué dès le départ comme ça.
Mais malheureusement, c'est certains parents, hommes ou femmes, se servent de ça comme d'un outil de manipulation.
Voilà, c'est ce qu'on m'a dit, mais moi, je n'avais pas du tout pensé à ça. Moi, j'ai essayé d'aider mon fils. Et puis, puis, en fait, il a fallu que je me débatte depuis par rapport à cette étiquette qu'on m'a mis. Et pendant ce temps-là, le problème, il n'avance pas beaucoup pour lui parce qu'il n'a pas de suivi.
Alors, c'est ce que j'allais vous demander. Ce petit bonhomme, normalement, il doit avoir une pédopsie dans des situations comme ça.
Eh ben, non, il n'a rien du tout.
Et pourquoi ?
Parce qu'il a du mal à parler. Moi, au tout départ, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai emmené dans un CMPEA de par moi-même. Mmh. Et on a commencé un entretien régulier toutes les semaines avec un pédopsychiatre. Et la maman, elle s'est opposée, elle a écrit au centre pour dire qu'elle ne souhaitait pas qu'il soit pris en charge. Donc ça s'est arrêté. Et il a fallu que j'attende au moins un an parce que j'ai essayé de la décider par mail. Elle a fini par accepter, mais avec la liste d'attente pour avoir une place. Et puis, un an s'est passé entre deux. Puis après, on a repris, mais ça ne s'est pas très bien passé. Parce qu'on a essayé d'alterner entre un rendez-vous chaque semaine avec la maman et avec moi-même. Mmh. Et ils ont dit, l'équipe, qu'ils trouvaient qu'il n'avait pas trop de problèmes, que le problème, c'était moi. C'était moi qui étais anxiogène. Donc, bon. Donc moi, je me dis, si tous les enfants de parents séparés qui peuvent même s'il y a un conflit et si même il y a un papa anxiogène, s'ils font de l'encoprésie, de la nuasie, du bégaiement et presque une année avec des comportements hyper sexués comme ça.
Et voilà, le problème pour moi, il est là. Parce que tout ce qui est notamment problème d'urine, ça peut être lié à un souci de territoire. Donc il se peut qu'un enfant perturbé par des séparations, perturbé de ne plus avoir sa place ou de perdre quelque chose, développe des problèmes d'énurésie. Ça, c'est possible. D'autres troubles peuvent effectivement arriver par stress, mais tout ce qui est sexuel, vous savez très bien que dans la très grande majorité des cas, ça vient forcément de quelque chose qui s'est passé. Alors, c'est pour ça que je vous demandais si votre femme n'avait pas fréquenté un homme, un autre homme, qui aurait pu avoir des gestes envers cet enfant, ou alors à l'école, s'il n'y a pas eu un jour quelque chose.
Si, à l'école, il y a eu des choses. Il y a eu des exhibitions, il m'en a parlé, entre eux. Donc, il y a eu une époque où je me suis dit, peut-être que ça pourrait être lié. Mais depuis, il m'envoie quelques perches. Il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois, 8 mois, un soir au goûter, il me dit, papa, est-ce que je peux te poser une question? Je lui dis, oui. Il me dit, qu'est-ce que tu penses des adultes qui dorment nus? Donc, je lui dis, tu sais... Les adultes, à partir du moment où ils sont seuls chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Mmh. Et puis je lui dis, après, s'ils ne sont pas seuls, s'ils sont deux, il faut que les deux personnes soient d'accord. Et puis là, c'est pareil, ils font ce qu'ils veulent avec leur corps. Et je lui dis, mais pourquoi tu me parles de ça? Et il me dit, parce que je ne dormais pas et j'ai vu maman se lever la nuit. Et elle était nue. Bah, je lui dis, il se trouve que tu ne dormais pas et tu l'as vu, mais elle fait ce qu'elle veut, maman. Moi, ça ne me pose pas de problème. Et puis là, je l'ai senti gêné. Puis il m'a dit, mais le problème, c'est que dans son lit, il y avait ma petite sœur. Et là, je savais plus quoi dire. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut me dire? Est-ce qu'il veut me dire que quand lui, il est avec elle, c'est dans la même situation? J'ai senti un malaise. Et donc, je lui ai dit, on va reprendre la conversation un peu plus tard. Et on l'a reprise. Et j'ai pas pu approfondir. Et puis une autre fois, il m'a dit, il s'intéresse à un jeu vidéo qui s'appelle Zelda. Et il me disait, le personnage, quand il a des troubles de la mémoire, il essaie de repartir à l'endroit où il pense qu'il s'est passé quelque chose, mais dont il a du mal à se souvenir. Et le fait de revenir à l'endroit même, on peut retrouver ce qu'on a oublié. Et il me dit, j'aimerais bien que tu m'emmènes dans la maison que maman avait quand j'étais plus petit, parce que comme elle a déménagé, je voudrais voir s'il y a des choses qui me reviennent. Et en fait, parce qu'il s'est passé tout ça, et la maman, elle a déménagé juste au moment où j'ai fait le 119. Elle a changé de maison. Et j'ai trouvé ça curieux qu'il me dise ça. Donc il l'a emmenée. Je l'ai emmenée devant, parce qu'elle était habitée par d'autres locataires. Et il m'a parlé de sa chambre, il m'a fait voir la fenêtre, mais il n'y a rien qui est sorti non plus. Mais il y a des petits appels comme ça qui me paraissent... Alors, moi, je me dis peut-être que c'est mon hyper-anxiété ou je sais pas. Puis donc, j'arrive pas à être objectif parce que je sens quelque chose. Depuis qu'il est petit, je ressens quelque chose qui dégage quelque chose qui m'inquiète.
En vous écoutant, ça paraît assez évident. Un enfant n'invente jamais les histoires sexuelles. Il ne peut pas les inventer s'il ne les connaît pas. Après, les troubles du bégaiement, de tout ce qui est propreté, ça peut être lié effectivement à d'autres stress. Mais à partir du moment où il y a des dessins, des représentations, des comportements autour du sexe, aussi petit, c'est forcément qu'il y a eu un problème. Il s'est passé quelque chose à un moment donné. On ne sait pas forcément ni où ni avec qui, mais il s'est forcément passé quelque chose.
Moi, j'ai cru, quand j'ai eu les dessins, j'ai cru que j'allais aller, en allant vers des spécialistes, j'ai cru que... qu'on allait pouvoir me déterminer en fonction des dessins si réellement il avait subi quelque chose. Et en fait, on m'a renvoyé que mes dessins, on m'a dit que ça pouvait être moi qui lui avais dicté, que ça pouvait être moi qui les ai faits. Enfin, j'ai entendu. Et je me suis rendu compte qu'il y a 50% des professionnels qui me disent c'est soit il a vu des images, des vidéos, soit il a subi quelque chose, c'est sûr. Et d'autres qui disent c'est le développement normal de l'enfance, ça peut arriver et ça n'a pas forcément de conséquences. Et là, vu tout ce qu'on entend dans les médias et tout ce que je lis depuis que c'est arrivé, je me dis que c'est quasiment sûr qu'il s'est passé quelque chose. Mais je sais
moi,
pas.
J'ai jamais vu d'enfants de cet âge-là avec des problèmes de rapport au sexe à qui n'était jamais rien arrivé, franchement.
Alors, donc, ce que j'ai fait aussi, c'est qu'à l'époque, j'en ai parlé, comme il y avait eu des petits trucs à l'école, des petites scènes dans la cour, j'en avais parlé à la psychologue scolaire. Mmh. Elle l'avait pris avec elle. Mmh. Et alors, ce qui m'avait conforté, c'est qu'elle m'avait dit. Il a fait des dessins très douteux, donc j'aimerais bien vous voir pour vous en parler. Et en fait, j'ai amené mes dessins, il a fait exactement les mêmes. Donc c'était des êtres humains, et le sexe de l'homme était prolongé. Il faisait un sexe de l'homme, et il prolongeait au crayon, et ça allait dans la bouche d'une dame.
Et qu'est-ce qu'elle en dit, elle, alors?
Elle m'a dit que c'était normal. Alors, j'étais complètement... j'étais perdu.
J'ai du mal à imaginer qu'on puisse vous répondre ça sans creuser un peu plus, quand même.
Et là, il y a quelques jours, j'ai appelé une association nationale, SOS Inceste. Mmh. Je suis tombé sur une professionnelle qui m'avait l'air vraiment avoir beaucoup de compétences. Et elle m'a dit, moi, je suis quasiment sûr qu'il s'est passé quelque chose.
Alors, il y a des scènes auxquelles il a pu assister aussi.
Oui, oui. Alors, le problème, c'est que dans le cas, là, parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il ait dormi. Il dort encore. Et l'autre jour, il m'a dit... encore quelque chose qui m'a inquiété. Il m'a dit, papa, il était dans la salle de bain, il faisait sa douche. Il m'a appelé, il m'a dit, papa, j'ai une intuition. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Donc je suis resté à la porte. Il m'a dit, je refais pipi, je commence à bégayer, j'ai des problèmes. Et je crois que c'est parce que je repasse des nuits avec maman. Et là, quand il m'a dit ça...
Et vous arrivez à en parler avec votre ex-femme de ça?
Ah ben non, je vous dis... Alors le problème, c'est que les gendarmes, à l'époque, nous ont dit à chacun, soit on continue la procédure, il y a des gros risques que l'enfant soit placé dans une famille d'accueil, soit on essaie de délayer ça par vous-même et vous vous rencontrez, vous essayez d'en parler. Et donc on s'est rencontrés et une fois, et elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas en parler. Que ça l'a ramené à des choses trop difficiles pour elle et que c'était, elle pouvait pas en parler.
Donc il y a bien quelque chose, sinon elle ne vous dirait pas ça.
Bah ouais, mais moi on est resté là-dessus. Et j'ai cru après, parce qu'il y a eu une MIF après, une mesure d'investigation familiale. Et là je me suis fait passer pour un manipulateur anxiogène. Enfin, il a fallu que je me batte pour essayer de recentrer le problème et le débat autour de cet enfant-là, de mon fils. Et puis là, maintenant, il y a une AEMO, donc assistance éducative en milieu ouvert. Et je trouve que c'est pareil, ça, c'est long.
Mais est-ce qu'il n'est pas assez grand, votre fils, à son âge maintenant, pour dire des choses à sa mère directement ?
Bah, c'est ce que je finis par me dire, mais ce qui est difficile, c'est de penser qu'il est encore dans le milieu où peut-être il s'est passé des choses, où il s'en passe encore, et c'est super difficile, je trouve. Parce que il y a des fois, j'ai encore envie d'alerter, dire peut-être qu'il y a un endroit où il faudrait pas qu'il soit, mais sauf que je me rends compte qu'on peut rien faire, en fait. Alors quand j'entends dans les médias, quand vous avez un doute, quand il y a un enfant qui émet des signaux inquiétants, en fait, le 119, moi je me dis maintenant, je sais pas ce que je ferais si j'avais à le refaire. Je sais pas ce que je ferais.
C'est qu'ils ont géré ça au bazooka, quoi.
Ah ouais, c'est un rouleau compresseur, une fois que vous avez fait ça, c'est... Ben, je trouve qu'on devrait prévenir, dire, soit vous le faites d'une façon anonyme, soit vous le faites en votre nom, mais il se peut qu'après, ben voilà, si c'est entre parents, il y a des profils qui se dessinent après. Enfin, moi, je m'attendais pas à ce qu'on fasse un profil comme ça. Enfin, là, depuis, moi, je pense que... Les gens qui ont travaillé autour de ce souci-là, ils pensent que, enfin, ils disent, je pense que je suis un pervers narcissique qui
Mais vous tombez au milieu de tous les clichés habituels, comme.
Qui manipule tout le monde pour ses propres besoins ou ses propres. C'est compliqué.
Mais vous avez mentionné tout à l'heure une petite sœur.
Ouais.
C'est votre fille ?
Non.
C'est la fille de qui ?
Je sais pas. Elle est de personne.
Elle est plus jeune ou plus petite que lui, c'est ça ?
Oui, plus jeune.
Donc ça revient à ce que je vous demandais tout à l'heure. Il y a bien eu un homme dans la vie de votre ex-femme ?
Non.
Belle. C'est-à-dire ?
Je n'ai pas envie de donner trop de détails parce que... mais non. Donc la maman, elle a deux enfants. Dont le mien, et l'autre, le papa, il n'y a pas de papa. Enfin, en tout cas, c'est le discours de mon fils, et je sais que son discours est juste.
Ah, c'est difficile, là. Si je n'ai pas toutes les cartes en main, ça m'est compliqué de comprendre ce qui se passe. À propos de cartes, justement, j'aimerais vous suggérer un exercice, quelque chose à faire avec votre fils, si vous en avez envie.
Oui.
Vous allez chercher des informations sur Lise Bartoli.
Lise
Bartoli, qui est une excellente pédopsychiatre et qui a créé des jeux de cartes, les cartes de Lise Bartoli. Ce sont des cartes avec des dessins. Et vous allez pouvoir proposer à votre fils de choisir des cartes au hasard, avec de gros guillemets, parce qu'il n'y a pas de hasard, et de raconter des histoires avec ces cartes. Et très très souvent, on se sert de ça en thérapie avec les enfants, parce qu'à travers les histoires qu'ils recréent avec ce qu'il y a sur les cartes, ils vous racontent leur histoire.
Ah ouais, c'est intéressant.
Les cartes de Lise Bartoli.
Ouais, j'ai noté et je vais le faire parce que je lui ai acheté un livre dont j'ai oublié le titre sur le corps de l'enfant et ce dont il doit se protéger et je me rends compte qu'il le lit, qu'il le relit, qu'il y revient, qu'il réfléchit et ouais ça m'interpelle un peu ça parce que je me suis dit que j'avais entendu un résumé de ce livre, et ça me paraissait vraiment bien rédigé. Et il a l'air de s'y intéresser. Il a un journal intime aussi, et il a écrit ce qu'il a entendu dans les médias, les affaires dont on parle en ce moment.
Mmh.
Il a écrit un récit, et il a écrit tout le récit, et il dit que... Il termine le récit, il dit peut-être que je suis victime de l'inceste, et il met point d'interrogation.
Mais qu'est-ce qu'il vous faut d'autre comme preuve ?
Ben, je sais pas. C'est vous savez, c'est je sais pas on veut pas y croire, enfin on se dit que c'est pas possible déjà, enfin moi je me dis que c'est pas possible et plus on avance plus on se dit ça doit être possible et c'est difficile, enfin les enfants c'est un peu notre prolongement et c'est une salissure qu'on qu'on a du mal à accepter, à réaliser.
Là, il est évident qu'il y a des choses qui ne sont pas claires du tout du côté de votre ex-femme.
Ah bah ça, c'est sûr. Mais sauf que... Et il y a une expertise psychologique qui va dans ce sens-là. Et bah, je ne comprends pas. Dans l'expertise psychologique, c'est écrit qu'elle a des troubles, vraiment, qu'elle est complètement focalisée sur moi, qu'elle n'arrive pas à tourner la page et qu'elle donne une mauvaise image à l'enfant du père, que l'enfant a du mal à s'autoriser d'aller vers son père alors qu'il y a une demande, et qu'elle est suicidaire avec risque de passage à l'acte. Et ouais, je sais pas, il se passe rien. Donc du coup, ça me crée quand même une certaine anxiété. Et voilà.
Qu'est-ce qui vous a amené au divorce il y a 5 ans ?
Il y a plus que ça, il y a 10 ans.
À 10 ans, pardon.
On s'est séparés à sa naissance.
D'accord.
En fait, on devait se séparer. On a eu une relation assez chaotique, passionnelle et chaotique. Et on devait se séparer et elle n'était pas motivée d'une séparation. Par contre, le jour où elle m'a dit qu'elle était enceinte, elle m'a dit avec beaucoup d'énergie qu'elle était prête à la séparation. Et donc, on s'est séparés comme ça. Donc, il a une histoire un peu particulière, quand même. Et des fois, je me dis, est-ce que c'est pas des troubles qui sont liés aussi à son histoire un peu particulière, mais bon.
C'est là que je vous disais tout à l'heure, peut-être certains troubles liés notamment à ces problèmes de tout ce qui est propreté, ça peut être effectivement lié à son histoire, mais pas le reste. Pas le reste, évidemment, non.
Parce que, enfin, il a eu des comportements... Ah ouais, puis il y a eu aussi, en fait, son organe sexuel, quand il était petit, enfin, ça, c'est... Je crois que c'est ce qui m'a le plus perturbé. Enfin, il a doublé de volume, C'était impressionnant. Enfin, et puis du jour où on a été convoqué par la gendarmerie, tout est redevenu normal. Puis c'était une obsession. Enfin, tout était rapporté à ça. Tout. Alors il simulait des actes sexuels masculins et féminins aussi. C'est ça qui je comprenais pas. Il simulait des masturbations féminines et il simulait des actes de pénétration plutôt masculine. Alors,
il est clair que cet enfant, même s'il n'a pas été lui-même touché, a assisté à des scènes qu'il n'aurait pas dû voir. C'est une évidence.
Oui. Mais sauf que les professionnels, le directeur du CMPEA, ils m'ont dit non, nous on n'est pas inquiets, ça peut être le déroulement normal.
Là, c'est pas sérieux. Franchement, Lucas, c'est pas sérieux. Il faut que vous trouviez des gens qui soient un peu plus investis, un peu plus sérieux dans ce travail-là.
Alors. Oui, sauf que maintenant, c'est plutôt l'AEMO qui... Mais alors, ils sont contre un suivi parce qu'ils disent qu'il est trop fermé et qu'il n'a pas besoin de suivi psychologique, alors que moi, j'aimerais bien qu'il ait un endroit neutre où pouvoir...
Trop fermé, mais c'est justement quand on est trop fermé qu'on a besoin d'aide. Qu'est-ce que c'est que, Qu'est-ce que c'est que cette manière de gérer les choses, là ?
Ouais, je comprends
pas.
Il
est trop fermé, mais attendez, c'est... Dites-moi, est-ce que vous connaissez vos beaux-parents, la famille de votre ex-femme, un petit peu ?
Oui.
Est-ce que vous pouvez imaginer comment les choses se sont passées pour elle quand elle était enfant ?
Oui, je sais. Ça s'est mal passé.
C'est-à-dire ?
Elle a subi elle-même aussi des choses. Sous le regard de ses parents.
Cherchez pas plus loin.
C'est pas... On va pas... Je sais pas si on peut appeler ça de l'inceste, parce qu'elle a subi quelque chose par un salarié de ses parents, mais sous le regard des deux parents.
Qu'est-ce que vous voulez ? C'est cousu de fil blanc, cette histoire, depuis le début. C'est une telle évidence.
Ouais, c'est pour ça que je ça fait longtemps que je vous écoute et que je me dis, j'aimerais bien avoir... Parce que j'écoute vos auditeurs qui disent que des fois, on réalise des choses
en parlant, bien sûr.
Ouais. Et donc moi-même, j'ai développé des problèmes de santé, forcément, des gros problèmes, parce que ça m'a...
Il y a de quoi être détruit, hein.
Là je me suis... Alors je me suis rendu compte qu'avec le stress, on développait des hormones qui détruisent, et puis j'ai développé des maladies, et puis c'est compliqué, mais Alors, en fait, tout se retourne comme ça. Alors, maintenant, ils disent aussi qu'il est troublé, il a tous ces problèmes-là parce que j'ai des problèmes de santé, que ça l'inquiète, et alors qu'il m'en parle. Comme là, ils ont dit, c'est le Covid aussi. Le Covid, ça peut l'inquiéter, donc il fait de l'anurésie, l'encoprésie. À chaque fois, il y a un nouveau thème.
J'arrive pas à comprendre que sur quel type de gens vous êtes tombés, là.
Je me dis que c'est pas possible de pas avoir de chance à ce point-là, parce qu'en fait, ça a changé de la mesure d'investigation familiale. C'est pas les mêmes équipes que la EMO. Donc moi, je me disais, bon, on peut tomber sur une équipe un peu bancale. Et là, je pensais que la EMO, ça allait être. Mais ouais, je me dis que déjà, c'est le suivi, il est super léger. Et puis bon, c'est vrai qu'avec le Covid, ça a été fait d'une façon un peu superficielle. Et puis lui, il attend beaucoup. Lui, il demande de l'aide, lui. Il en demande beaucoup, lui. Il m'en parle souvent, il me dit « Papa, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui m'aide, qui puisse m'écouter. » Mais bon, c'est compliqué. Donc, je pense à tous les enfants, avec tout ce qu'on dit. Et la personne que j'ai appelée de l'association, elle me disait qu'il y avait plein d'appels. Et elle me disait « Par contre, c'est souvent des mamans, il n'y a pas beaucoup de papas.
Ouais. »
Et elle me disait que c'est vrai que s'il y avait un soupçon qu'il s'est passé quelque chose avec la maman, c'est rare. Et du coup... elle me dit, c'est certainement pour ça que vous êtes stigmatisé, parce que c'est déjà tabou au premier abord. Alors si en plus, on sous-entend que c'est un petit garçon qui serait victime peut-être de sa maman, alors là, on ne peut pas l'entendre.
Sauf qu'il va arriver un moment, comme je vous le disais, où c'est lui qui va le dire, très clairement.
Je sais pas.
Parce qu'il va arriver dans la préadolescence, là, maintenant.
Là, il m'a dit, il y a 2 jours, il m'a dit, c'est vrai que maman, elle m'embrasse quand même beaucoup sur la bouche et pourtant, c'est pas mon amoureuse et ça me gêne un peu. Et il m'a dit aussi des choses comme « Maman, elle met de la musique et puis elle danse nue devant moi. » Et je trouve que c'est quand même curieux tout ça.
Mais ça me semble énorme tout ce que vous me racontez là.
Oui, c'est énorme. Mais...
Bon, je n'ai que votre version des choses et je vous crois volontiers, mais ça me paraît délirant, vraiment.
À ce moment-là, ça fait 5 ans que je me rabâche. Alors, ce qu'on m'avait dit, c'est que j'ai été voir une assistante sociale qui m'a beaucoup aidé par téléphone et de part, puis je l'ai rencontrée, elle m'avait dit, pour que vous teniez le coup, à chaque fois qu'il y a quelque chose, vous mettez la date, vous ouvrez des guillemets, vous marquez ce qu'il vous a dit, ce qui s'est passé, et je l'ai fait. Donc, j'ai un cahier, les pleins. Et une chance que j'ai écouté cette femme, parce que c'est vrai que des fois, je me dirais, j'ai déliré. Alors que là, je peux relire Et je sais que ce que je dis, c'est pas du délire.
Et vous pouvez aussi prendre en photo les pages du journal intime de votre fils, en témoignage.
Ouais. Mais alors, j'ai fait une bêtise, par contre, parce qu'on m'a dit que... Parce qu'il est très, très brillant à l'école. C'est un enfant hyper brillant. Donc, ils disent que c'est pas possible qu'il ait des problèmes. Ça se passe trop bien à l'école, alors que lui dit que c'est son refuge. C'est là où il sent en sécurité et il dit que c'est son refuge. C'est le mot qu'il utilise. Les professionnels, ils disent que s'il avait vraiment des problèmes graves, il y aurait des répercussions sur son travail scolaire et sur son comportement à l'école. Et il y a un an, il a eu des idées suicidaires. Il se cachait sous une table de ping-pong à la récréation. Et en fait, c'est là où j'ai cru comprendre qu'il pouvait être hypersensible ou haut potentiel ou zèbre parce que, en fait, il y a un petit garçon qui était haut potentiel intellectuel que je connaissais bien qui est arrivé dans sa classe et ils se sont collés entre eux et depuis, je trouve qu'il est beaucoup équilibré. Il a pris conscience de plein de choses et il s'est affirmé. Mais en tout cas, ce problème-là, je trouve que. Enfin, je sais, j'arrive pas à évaluer. Quand je vous écoute, si ce que je raconte, c'est super inquiétant, très très inquiétant, si ça peut être courant, si on peut l'entendre, si...
Ah non, pour moi, c'est plus que très inquiétant.
Si je m'inquiète de trop, parce que moi, depuis ça, donc je me suis entouré, il y a une assistante sociale, comme je vous ai dit, j'ai été voir quelqu'un au niveau psychologique qui m'a beaucoup aidé et qui m'a dit à chaque fois, de toute façon, c'est simple, si vous faites rien, c'est moi qui fais. Parce que moi, je n'ai pas de doute, c'est sûr. Donc, c'est ce qui m'a motivé aussi de faire le 119. Mais par ailleurs, quand je suis en j'échange avec les équipes qui s'occupent de lui. Quand on me dit, bah, vous êtes trop anxieux, vous êtes anxiogène, vous transmettez votre inquiétude à l'enfant, donc il a tous des troubles comme ça. Bah, je sais plus, je me dis, je sais plus.
Mais c'est, fait, donc, c'est du délire de remettre ça sur votre dos. Je pensais à autre chose aussi, est-ce qu'il serait possible pardon, que votre ex-femme regarde des vidéos porno et que le petit ait vu ça? Qu'il ait eu accès à des images qu'il n'aurait pas dû voir?
C'est ce qu'on sait. Bah, ça a été une hypothèse. Moi, je ne pense pas. Par contre, il y a eu une proximité, je vous dis, la nuit.
Oui, ça, j'ai compris. Oui, oui.
Je l'ai emmené une fois chez une homéopathe. Il était avec moi un mercredi, puis... Elle l'a ausculté et moi j'étais derrière le paravent près du bureau, donc mais j'entendais et donc elle lui posait des questions et il disait que il dormait pas beaucoup la nuit parce que fallait que sa maman donne le sein à sa petite sœur et donc il expliquait les scènes et elle lui disait mais le papa il peut prendre le relais, c'est pas à toi, mais donc il disait mais ouais mais elle a pas de papa donc et donc ce médecin m'a dit mais votre fils faut faire quelque chose, il est en épuisement, c'est curieux ce qu'il raconte.
Donc ça veut dire qu'il y a plein de professionnels de santé qui ont entendu ce petit garçon dire tout ça et personne ne bouge.
C'est ça. Et moi, c'est ça qui m'a détruit, moi. Parce que je comprends pas. Et donc, j'ai dit, par contre, je l'ai fait. Il a vu, il y a 2 ans, sur son carnet de santé, il y avait 17 tampons de médecins différents. Donc, si vous voulez, ce qui m'inquiète, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un suivi qui commence quelque part, la maman, elle bifurque, comme si elle voulait pas que cet enfant puisse être entendu ou ausculté. À chaque fois, c'est comme ça. Et là, moi, je me dis rien que ça, c'est super curieux. Enfin, donc, il a pas de suivi. Personne, à part moi, je pense, personne peut constater quoi que ce soit. C'est impossible. Donc il y a eu des déménagements de la maman, il y a eu des changements de médecin. Il y aurait qu'à l'école, mais à l'école, c'est pareil. Il y a eu de l'encoprésie, de la nurésie, du bégaiement. Il y a eu des maîtresses qui ont dit qu'il avait des problèmes avec son corps, qu'il y a eu des choses, hein, mais ça mène nulle part.
Ça paraît quand même consternant, cette histoire.
Oui, mais moi je trouve que... Enfin, quand j'entends les statistiques avec tout ce qu'on dit, on dit qu'aujourd'hui, il y a 2 ou 3 enfants par classe qui ont subi des choses sur leur corps. Alors moi, je dis le mien avec tout ce qui l'a manifesté. Il doit, enfin, il y a probablement 100% de chances qu'il fait partie des 2 ou 3 parce que les autres, enfin, j'entends pas parler qu'ils aient tous ces problèmes-là.
Bon, si une fois de plus,
donc en fait, l'objet de mon appel, c'est essayer d'évaluer de par moi-même en vous parlant et puis de voir votre réaction, puis peut-être, je sais pas, les auditeurs, si je suis à ma place, enfin si ce que je fais c'est à sa place et si je suis vraiment anxiogène, si je suis trop anxieux, si je me fais des films, si mais ce que je vous dis c'est la vérité.
Ça, malheureusement, personne ne peut le vérifier. Je veux bien vous croire. Et peu importe, si ce n'est pas la vérité, ça n'a aucun intérêt, de toute façon.
Ben non.
Je ne vois pas très bien l'intérêt pour vous de venir me raconter une histoire
pareille
ce
soir. Ben voilà, c'est ça.
Ni pour nous de l'écouter, ça n'aurait pas de sens. Serait, si ce n'est de faire le malin, j'en sais rien, avec vos copains, mais je vois pas bien l'intérêt. Ça ne serait pas une preuve d'intelligence, en tout cas, ça c'est sûr. Et si tout ça est vrai et qu'il ne se passe rien, c'est dramatique.
C'est ça.
Parce qu'il est évident que ce petit garçon, ça m'embête un peu qu'on dise petit garçon, parce que 10-11 ans, c'est plus un petit garçon.
Oui, il va avoir 10 ans, oui.
C'est un garçon maintenant, 10 ans.
Ouais, c'est ça.
On ne se comporte plus avec lui comme avec un enfant de 3 ou 4 ans. Quoi. Il peut s'exprimer, il peut dire les choses, il peut témoigner aussi. Quoi.
Alors jusqu'à maintenant, il y a donc un juge pour enfants et qui était plutôt dans la lignée de douter du papa, qui était et là, donc on est passé il n'y a pas longtemps. Et là, il commence à rééquilibrer les choses. Donc, il parle d'une relation toxique des parents, de 2 parents qui n'arrivent pas à faire valoir leur parentalité. Et il dit que la prochaine fois, si on en est toujours au même point, l'enfant sera placé dans une famille d'accueil. Et là, il y a ça aussi qui me dit...
Je comprends que ça vous bloque, ça.
Ouais.
Simplement.
Ça me bloque. Je me pose des questions. Je me dis, est-ce que ça peut pas être un déclencheur pour lui de se rendre compte quel est son milieu de vie, ce qui s'y passe, et d'être de lui-même être objectif. Mais je me dis, il peut le vivre comme un abandon, parce que moi, il m'écrit une fois par mois, papa, je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Je sais que je peux compter sur toi, papa, je t'aime, papa.
Mais vous l'avez à quel rythme ?
C'est une garde élargie, donc c'est un week-end sur deux plus un mercredi sur deux.
Et pourquoi est-ce qu'il vous écrit alors ?
Ben, je ne sais pas. C'est quand il partage du temps avec moi, il lit beaucoup, il écrit beaucoup, et il me fait des dessins, et puis il me rédige tout ça. Donc j'ai un classeur où j'ai gardé tout, et il y a des jours quand ça m'arrive de regarder, je me dis, mais on a l'impression d'un adulte à qui on a rendu des services, qui a eu des problèmes dans sa vie, et qui vous témoigne de sa reconnaissance, et c'est très curieux.
En tout cas, il me semble moi, qu'il y a deux histoires dans votre histoire. Effectivement, les conflits entre parents font que les éducateurs et la justice, ils sont tous extrêmement prudents, et c'est normal, parce que chacun peut aussi tirer la couverture à lui, inventer des histoires, des choses comme ça. Ça, c'est je peux comprendre la frilosité, si vous voulez, l'attentisme. Mais quand on a un petit garçon qui dessine, ce que vous me dites, qui mentionne des scènes comme celles qu'il semble avoir mentionnées, les choses sont claires, vraiment, il me semble que les choses sont très claires. C'est pas du tout une question de conflit entre les parents, là, c'est qu'il y a un vrai problème.
Et puis, si j'avais été seul, il y a d'autres personnes de mon entourage qui ont assisté à des scènes, à toutes ces scènes-là, ça a duré à peu près une année. Donc, quand j'étais tout seul avec lui, il y a des fois, c'était compliqué, parce que je me disais, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je lui dis, Et quand vous êtes pas seul, vous vous dites, voilà, j'ai pas rêvé, là, c'est sûr, parce que vous pouvez en parler après avec les personnes, et on me disait, mais là, non, mais c'est super inquiétant. Enfin,
dites-lui surtout qu'il a le droit aussi de s'exprimer, et de dire, de dire non à sa mère, de dire, ça me gêne quand tu fais ça, je n'accepte pas ça.
Ouais, il le sait, ouais.
C'est important, ça.
Ouais.
Mais pour répondre à votre question le plus simplement du monde, si tout ça est vrai, oui, c'est grave. Évidemment, c'est grave.
Moi aussi, je pense que c'est super grave, mais c'est pas des faits courants. Enfin, c'est souvent dans l'autre sens. On entend peut-être plutôt des papas qui pourraient, ou des beaux papas qui pourraient abuser de jeunes filles. Mais là, un petit garçon, enfin, c'est compliqué quand même.
J'ai déjà eu un témoignage d'un papa dans votre situation il y a quelque temps, il y a 2 ans de ça, je crois.
Ah oui.
Malheureusement, c'est oui, bien sûr, c'est moins fréquent, mais ça arrive aussi.
Moi, du coup, je connais bien la maman et je sais que il y a des éléments de sa personnalité qui favoriseraient aussi certains.
Ben, c'est ce qu'on s'est dit. C'est une évidence aussi. Hein.
Ouais.
C'est une évidence.
Bon, je peux pas tout vous dire, mais il y a des éléments vraiment frappants et marquants et c'est un peu compliqué quand même. Donc,
Bon, j'entends que vous ne pouvez pas tout dire. En plus, l'émission va se terminer, Lucas.
D'accord.
Enfin, je ne peux pas vous dire autre chose que oui, c'est grave.
Bah, je
et que
remercie,
votre rôle de père, c'est de protéger ce petit garçon.
C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais,
et
ouais.
De faire bouger les choses un peu plus sévèrement que ce qui se passe en ce moment, parce qu'il ne se passe rien, visiblement.
Mais oui, mais c'est difficile de trouver des interlocuteurs, je ne sais plus où aller, je ne sais plus comment faire. Là. Je ne sais plus.
Est-ce que dans l'histoire, vous avez déjà tenté de prendre un avocat, par exemple, quelqu'un qui pourrait vous aider sur le plan juridique ?
Bah oui, mais... Il se passe rien, oui. J'ai fait ce qu'il fallait.
Voilà, vous êtes tombé vraiment sur des mauvaises personnes à chaque fois. C'est quand même... À ce point-là, c'en est un peu étonnant, quand même.
J'ai même changé. J'ai changé et je croyais que... Non, c'est... Là, je vois plus. Hein. Moi, je ne vois pas ce qu'il faut faire. Je comprends pas. Je vois pas du tout.
Bon, je suis désolée, Lucas. L'émission va se terminer. Ça va être difficile. On pourrait parler très longtemps de cette histoire. C'est toujours compliqué d'avoir aussi une seule version des choses, évidemment. Vous comprenez bien que pour moi, c'est pas évident.
Mais bien sûr, je comprends.
Mais oui, c'est grave ce qui se passe. Et soyez extrêmement vigilants pour la suite.
Je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie, Lucas.
Allez, au revoir.
Au revoir. Notre émission se termine, il est déjà presque 1h du matin. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos témoignages. Merci pour votre présence. On se retrouve bien sûr demain soir à partir de 23h. Et je vous quitte avec la phrase, le mot du jour. Ça, c'est comme d'habitude, la vie nous donne toujours une seconde chance. Cette seconde chance, elle s'appelle simplement demain. Passez une bonne nuit et à demain justement.